perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, votre émission métal qui, chaque semaine, eh bien, vous propose de faire un petit tour d'actu, des actus métal, des nouveaux albums qui arrivent en ce moment. Alors aujourd'hui, ce sera un mélange entre des albums qui paraissent ce jour, en ce 21 février, et puis quelques albums qui sont parus la semaine dernière, le 14 février, parce qu'il y a eu beaucoup de choses la semaine dernière, j'avais pas eu le temps de tout vous présenter, d'autant qu'on a eu la superbe interview avec le groupe Carcarias. Quelques gros trucs aujourd'hui, dont le plus notable, c'est quand même la sortie du nouvel album de Ozzy Osbourne, qui était attendu depuis un long moment. Alors, pour ce qui est des styles qu'on entendra aujourd'hui, on aura du heavy metal, on aura quoi encore ? On aura du hard rock, on aura du new metal aussi, un petit peu, on aura du doom, donc vous voyez, ça va être quand même assez varié aujourd'hui, et tous les amateurs de métal vont en prendre plein les oreilles. Eh bien, je vous propose de lancer tout de suite les hostilités et on commence par la grosse sortie du jour, le nouvel album de Ozzy Osbourne qui s'appelle Ordinary Man. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce grand homme qui est Ozzy Osbourne, qui a marqué largement l'histoire du rock'n'roll. C'est le 3 décembre 1948 que naît à Birmingham John Michael Osbourne au sein d'une famille ouvrière extrêmement modeste. 20 ans plus tard, le jeune Ozzy Osbourne va fonder avec Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward un groupe qui s'appelle Black Sabbath et qui va devenir un des pionniers de ce qu'on appellera le hard rock, le heavy metal. D'ailleurs, on peut considérer Ozzy Osbourne comme un père fondateur du heavy metal, tout simplement. Et c'est simple, hein, de toute façon, il va contribuer à écrire déjà de toute façon la légende de Black Sabbath, puisqu'il va signer des morceaux cultes durant toute la décennie 70. Mais malheureusement, eh bien, ses frasques diverses ainsi que son importante consommation de drogue et d'alcool vont le pousser tout droit vers la sortie. Et alors qu'il touche le fond, on est à la toute fin des années 70, eh bien, sa rencontre avec une certaine Sharon Arden, qui va devenir plus tard son épouse, va changer son destin, puisque grâce à elle, celui qui a été viré de Black Sabbath va se lancer dans une carrière solo au début des années 80 et une carrière solo qui elle aussi sera couronnée de succès. Pour ce qui est de la suite, Ozzy va quand même réintégrer finalement les rangs de Black Sabbath, mais beaucoup plus tard, hein, ce sera d'abord entre 97 et 2006 et puis après il va repartir quelques temps pour revenir en 2011 et là il va rester jusqu'à la tournée d'adieu du groupe qui s'est achevée en 2017. Alors, il est désormais en retraite de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, mais il compte bien profiter de cette retraite recommencer à consacrer du temps à sa carrière solo. Mais voilà, notre Prince of Darkness, qui a quand même fêté ses 61 ans, il a annoncé fin janvier qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, un mal qui l'affecte en fait depuis 2003, hein, on le savait pas, mais dont les symptômes se sont intensifiés et aggravés ces derniers mois. Donc il a bien fallu dire pourquoi il était obligé sans cesse de repousser ses tournées à cause de maladies, d'hospitalisation. Et là, dernièrement, il a été contraint d'annoncer qu'il annulait sa tournée américaine qui était prévue au printemps. Alors ça, c'est un petit peu pour l'histoire dans les grandes lignes de Ozzy Osbourne, mais Ozzy Osbourne, c'est aussi une sacrée discographie. On peut en dire quelques mots avant de parler de son nouvel album. On va faire un point rapide, hein, parce que déjà, rien qu'avec le groupe Black Sabbath, il a sorti en tout 9 albums. Il y en a 8 qui sont parus entre 70 et 78, et puis un qui est paru en 2013, qui s'intitule justement 13, qui est l'ultime album de Black Sabbath. Alors parmi les albums qui sont sortis dans les années 70, il y a quelques chefs-d'œuvre qui sont d'ailleurs devenus totalement mythiques, comme par exemple Black Sabbath paru en 70, Paranoid paru la même année, Master of Reality en 71, Sabbath Bloody Sabbath en 73, et puis des albums cultes, il en a aussi sorti en solo, c'est le cas par exemple de Blizzard of Oz en 80 ou Diary of Mad Men en 81, qui ont été enregistrés avec le jeune prodige de la guitare Randy Rhoads, qui va malheureusement décéder tragiquement peu de temps après, en 1982. Des albums solo qui sont désormais au nombre de 12, hein, dans la carrière d'Ozzy Osbourne, avec la sortie aujourd'hui de ce très attendu Ordinary Man, que le Madman a enregistré avec la collaboration d'une toute nouvelle équipe. Ça faisait 10 ans qu'il avait rien sorti. Alors cette nouvelle équipe, elle est composée du bassiste Duff McKagan, donc ex-bassiste des Guns N' Roses. On trouve également le batteur Chad Smith, qui fait également partie des Red Hot Chili Peppers. Et puis il y a un jeune guitariste qui s'appelle Andrew Watt, qui a également produit le disque, et une jeune compositrice qui s'appelle Ali Tamposi. Et alors elle signe une bonne partie des textes. Jusqu'à présent, elle était surtout connue pour avoir écrit des gros tubes plutôt dans le répertoire pop, mais elle touche un peu à tous les styles quand même. Elle est assez influente, hein, dans l'industrie de la musique américaine. Et le résultat, il est plutôt probant, hein, puisque les morceaux sont bien écrits, c'est bien produit, et puis bah, la prestation d'Ozzy, il n'y a rien à dire, elle est à la hauteur de son talent. Rien d'exceptionnel, mais voilà, il fait totalement le job. Mais il y a quand même un petit bémol, parce que malgré tout, on sent bien à travers cet album que le prince des ténèbres, il est quand même un peu en fin de carrière. Et Ordinary Man, il sonne un petit peu quand même comme un album testament pour Ozzy Osbourne, qui, bon, bah, du coup, s'est fait plaisir et il a eu raison en invitant quelques artistes à partager une chanson avec lui. Alors, par exemple, il y a Slash, il y a Tom Morello de Rage Against the Machine, il y a Sir Elton John aussi, qui a à peu près le même âge que Ozzy et qui lui aussi a eu des petits pépins de santé récemment. Et puis, plus surprenant, il y a deux petits jeunes aussi qui sont invités à chanter sur l'album. Il y a un chanteur de pop R&B qui s'appelle Charlie Puth, et puis un rappeur qui s'appelle Post Malone. Mais nous, c'est le featuring avec Slash qu'on va écouter, parce que voilà, c'est un des très bons morceaux de cet album. Un album qui fait partie quand même de ce qu'Ozzy a fait de mieux ces dernières années en tant qu'album solo. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'espère me tromper en disant que ce sera son ultime album. Qui sait, il peut encore nous surprendre, je pense. Voici tout de suite Ozzy Osbourne avec un morceau qui s'appelle Straight to Hell, en featuring donc avec Slash.
Until your final thrill. yourself and I will watch you bleed.
Une voix qu'on reconnaît entre mille, celle de Ozzy Osbourne, avec le morceau Straight to Hell, un extrait du nouvel album qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle Ordinary Man. Alors oui, il est loin le temps où Ozzy arrachait des têtes de chauve-souris avec ses dents sur scène, mais il est toujours là et on en profite. Donc allez jeter une oreille à ce nouvel album qui est quand même plutôt réussi, et ça, il faut le souligner. Et puis allez réécouter Black Sabbath, parce que c'était quand même révolutionnaire, Black Sabbath. Il y a trois groupes qui ont été révolutionnaires, enfin en ce qui me concerne, je trouve, c'est Black Sabbath, Deep Purple et Led Zepp, qui chacun ont posé, je pense, une pierre des fondations de ce qui est devenu aujourd'hui le métal. Et Black Sabbath, eux, c'était le côté plus noir, plus lourd, et voilà, c'est des morceaux tellement cultes que ça fait toujours du bien de les réécouter, et puis aller refaire aussi un petit tour du côté de la discographie solo d'Ozzy Osbourne. Il y a de très bonnes choses aussi dans un autre style. On va rester dans la catégorie des vieux briscards de la scène heavy anglaise dans cette émission Check Me Load sur Bike FM, puisqu'on va s'intéresser maintenant à Biff Bifford, qui sort aujourd'hui son premier album solo, un album qui s'appelle School of Hard Knocks. Alors, qui est Bill Bifford ? Peut-être que pour certains d'entre vous, ça évoque rien, notamment pour les plus jeunes. Eh bien, sachez que Biff Bifford, c'est le chanteur et aussi membre fondateur du groupe Saxon, un des fleurons de ce mouvement qui est né à la toute fin des années 70, qu'on a appelé la New Wave of British Heavy Metal. Je vous en parle souvent de ce mouvement, puisque il a eu de l'influence et il a de l'impact encore aujourd'hui. Alors, je vous disais qu'il est né à la toute fin des années 70, eh bien, c'est justement dans ces mêmes années 70, en 76, que va naître le groupe Saxon, qui va connaître la consécration un petit peu plus tard, dans les années 80, et qui, après une période de déclin pendant les années 90, comme quasiment tous les groupes de heavy et de thrash, va connaître un véritable regain de popularité depuis l'arrivée des années 2000. Alors c'est quoi Saxon ? C'est du heavy metal, et c'est ni plus ni moins ce que va nous proposer Biff Bifford dans son premier album, mais pas que. Alors, lui, pareil, il faut quand même s'intéresser deux minutes à sa discographie, puisque en 44 ans de carrière avec Saxon, il a quand même sorti 23 albums studio, dont quelques-uns font office aujourd'hui de classiques du genre, comme par exemple Will of Steel, qui est paru en 80, Strong Arm of the Law, pareil en 80, il y a eu Power and the Glory en 83, et puis faut pas oublier non plus les derniers chefs-d'œuvre de Saxon en date, comme Lionheart en 2004, Call to Arms en 2011, Sacrifice en 2013, Battering Ram en 2015, ou Thunderbolt en 2018, pour vous en citer quelques-uns, mais il y en a d'autres, c'est pareil, je vous laisserai le soin d'aller vous faire votre opinion vous-même. Alors aujourd'hui, Biff Bifford, il est un tout petit peu plus jeune que The Osborne, puisqu'il a 69 ans. Et donc, bah, il était bien temps pour lui de se lancer dans une aventure solo. C'est chose faite avec la sortie aujourd'hui de ce fameux Schools of Arnox, dans lequel, eh bien, Biff Bifford aborde contes et histoires médiévales de sa terre natale, l'Angleterre, où il a d'ailleurs composé et enregistré le disque qui a ensuite été mixé à Stockholm. Alors, quant à la production de l'album, elle a été assurée par Bifford lui-même, qui a enregistré quand même avec la collaboration d'une équipe de musiciens assez chevronnés, puisque on retrouve deux Suédois, Fredrik Akersendopes à la guitare et Christian Lundqvist qui est l'ex-batteur des Poodles. Et puis on trouve également un grec qui s'appelle Gus Makrikostas à la basse, sans oublier également la présence de quelques invités de marque sur l'album, parmi lesquels, eh bien, j'ai envie de vous citer Phil Campbell des Bastard Sons, ex-Motorhead, et puis aussi Alex Holsvard de Rhapsody of Fire. Donc voilà, il y a du beau monde quand même qui a joué avec lui. C'est un album qui est construit un petit peu comme un livre de contes sonores, Schools of Arnox, et il se distingue des albums que Biff Bifford a sorti avec Saxon par sa diversité en matière d'influence. Parce que, alors, même si le disque, je l'ai déjà un peu dit, mais il reflète quand même bien l'identité heavy du chanteur, eh ben, il nous promène également au fil des chansons dans les autres univers sonores que Bifford affectionne, comme bah, le hard rock, le metal progressif, ou encore le classic rock. Alors, c'est délicieusement old school, la production est très soignée, on sent à travers chaque note la sincérité et puis le plaisir d'un Biff Bifford qui s'offre là une bien belle récré avant de sûrement revenir aux affaires avec Saxon. On va écouter un extrait de l'album, bah justement avec le morceau titre qui s'appelle School of Arnox. Voici tout de suite Biff Bifford sur Mac FM.
I was born upon the street.
World, à l'instant sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre School of Hard Knocks, extrait de l'album du même nom qui paraît aujourd'hui. C'est le premier album solo de Biff Bifford, illustre chanteur du non moins illustre groupe Saxon. Donc là encore une belle discographie à redécouvrir pour Saxon, et puis découvrir aussi ce premier album solo, ma foi, très réussi. Allez, on va laisser les vétérans de côté pour aller s'intéresser. Alors, une formation qui est plus récente, mais qui est pas ultra récente non plus, puisque c'est une formation qui date de la fin des années 90. Il s'agit de Demons and Wizards, qui sort aujourd'hui un album qui s'appelle Three. Et figurez-vous, eh bien, que ça faisait 15 ans que le groupe n'avait rien sorti. Alors, c'est qui Demons and Wizards? Et alors, déjà, c'est un groupe qui trouve ses origines à Tampa, en Floride, qui naît en 97, même si, attention, faut nuancer, parce que les origines de Demons and Wizards, elles sont aussi à 50% allemandes. Le groupe est en effet un duo qui est constitué du guitariste américain John Schaefer, qui est connu en tant que leader du groupe de heavy metal Ice Doors, et puis du chanteur allemand Hansi Kirsch, lui connu en tant que frontman du groupe de metal symphonique Blind Guardian. Alors, c'est en partageant quelques années auparavant une tournée avec leur groupe respectif que les deux musiciens sont devenus amis et qu'ils ont décidé de se lancer dans ce side project qui est Demons and Wizards, qui tire son nom d'une chanson célèbre d'un groupe de hard rock anglais qui s'appelle Uriah Heep, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est du power metal, Demons and Wizards. Et en créant ce projet, eh bien, John Schaefer et Hansi Kirsch, ils ont pour but principal de mélanger les mélodies sombres de Ice Doors et puis la puissance vocale de Blind Guardian dans une même musique. Alors, cet univers musical, on va le découvrir avec un premier album qui s'appelle tout simplement Demons and Wizards. Ça, c'était il y a 20 ans, en 2000. Le disque va bénéficier d'une promo plutôt conséquente, grâce à la popularité du duo Schaefer-Kirsch, et va recevoir un accueil plutôt enthousiaste de la part des médias. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'on, sur ce disque, on trouve une reprise assez sympa de White Room du groupe Cream. 5 ans plus tard, en 2005, Demons and Wizards va frapper une deuxième fois avec un album qui s'appelle Touched by the Crimson King, qui est un album inspiré de la fameuse série de romans La Tour Sombre de l'illustre Stephen King. Vous le savez certainement si vous écoutez régulièrement l'émission, c'est mon auteur préféré, donc dès que je peux le citer, j'en profite. Et c'est un album aussi qui va recevoir un bon accueil. Il va peut-être être un peu moins populaire que l'album précédent. La promo va être un peu moins grosse, mais bon, voilà, c'est un bon album, hein. Mais ça va être le dernier pendant un bon moment, puisque ensuite, les emplois du temps respectifs du duo étant quand même bien chargés, le projet Demons and Wizards, il va être, lui, plongé dans un profond sommeil. Et donc, après 15 ans d'absence dans les bacs, voici enfin le troisième opus qui s'appelle, je vous le disais tout à l'heure, tout simplement Three, donc 3. Un nouvel album qui reprend là où s'était arrêté notre duo germano-américain, qui nous offre, avec ce nouvel opus, 11 compos à la fois riches et sobres. Vous allez me dire, c'est paradoxal. Alors, je vais vous dire pourquoi. Riches parce que elles sont imposantes, ciselées, et sobres parce que c'est très aéré, c'est sombre, mais il y a quand même une petite part de lumière, et cette aération, eh bien, elle laisse une place très importante au chant de Hansi Kirsch, qui en a besoin, hein, puisque c'est un chanteur dont la prestation vocale est souvent imposante. Là, en l'occurrence, elle est impeccable. C'est impressionnant sa maîtrise, et puis aussi sa présence qui porte à merveille la musique d'un John Schaefer qui, lui, est très très inspiré, qui est aussi exemplaire en termes d'exécution. Donc en bref, Three, c'est un album puissant, épique, mélodique et réjouissant. C'est une véritable réussite pour Demons and Wizards qui signe un retour triomphal. La magie opère définitivement énormément au sein de ce duo d'exception. On écoute tout de suite un extrait de Three. Voici Demons and Wizards avec l'excellent Invincible.
Be the
Demons and Wizards sur Bike FM, un extrait du nouvel album 3 qui paraît aujourd'hui. On vient d'écouter le titre Invincible qui est tout bonnement excellent. Et c'est vrai, voilà, on retrouve bien ce côté un peu obscur d'Iced Earth et puis ce côté très symphonique de Blind Guardian dans un morceau où il y a cette sorte de petite magie qui est vraiment très agréable. Donc c'est un album que je vous conseille, bien évidemment, Demons and Wizards, projet de John Schaefer et Hansi Kirsch. On va aller faire un tour du côté de la Suède maintenant avec encore un album qui paraît aujourd'hui, c'est le nouvel album du groupe HIT. HIT qui est un jeune groupe de hard rock un peu qui fait de la musique un peu inspirée des années 80 comme beaucoup de groupes en ce moment et qui le fait bien. C'est un groupe qui est originaire de la banlieue de Stockholm, qui est né en 2007 et depuis 2010 il est mené par le chanteur Erik Grönwall. Alors HIT, donc, c'est un groupe qui aime se qualifier comme ayant un pied dans le passé et un pied dans le futur, ce qui résume finalement assez bien le style du groupe qui puise ses influences chez les grandes formations hard rock, glam et heavy des années 80 dans une version tout à fait moderne, ce qui donne un hard rock mélodique et débordant d'énergie qu'on peut qualifier d'arena rock si vous voulez. Alors l'arena rock, c'est quoi? C'est un terme pour dire que c'est de la musique taillée pour les stades. C'est en général des morceaux assez accrocheurs où il y a du refrain qu'on peut scander. Voilà, ça peut un peu vous donner une idée. Ça se faisait beaucoup dans les années 80, ce style-là. Encore une fois, on y revient à cette décennie. Alors, eux, ils vont sortir un premier album éponyme en 2008, qui, malgré des compos qui sont quand même de qualité, va pas connaître un grand succès à cause notamment de la qualité extrêmement moyenne du son. Donc faudra attendre un petit peu pour que HIT connaisse finalement son premier gros succès, et ce sera avec un single, une chanson qui s'appelle 1000 miles. Ça c'est en 2009. Et cette chanson, elle est composée pour représenter la Suède au concours de l'Eurovision. Alors finalement, ils seront pas sélectionnés pour représenter leur pays, mais cette participation au concours, elle va quand même s'avérer être un excellent tremplin, puisque HIT va ensuite se distinguer avec son deuxième album, qui arrive en 2010, qui s'appelle Freedom Rock. Et alors que tout semble rouler pour le jeune combo, eh bien, leur chanteur, qui s'appelle à l'époque Kenny Lekremo, il va annoncer son départ quelques jours juste avant la sortie du disque. Donc c'est à ce moment-là qu'il est remplacé par Erik Grönwall, qui lui est gagnant d'une émission de télécrochet puisque il a gagné l'émission Swedish Idol. C'est un peu l'équivalent de la Nouvelle Star en France, si vous voulez. Et donc ce nouveau chanteur, on va le découvrir sur l'album Address Nation, qui part en 2012. Là, ça va commencer à parler sérieusement autour de HIT, et avec le disque suivant, donc Tearing Down the Walls en 2014, et bien ça y est, le phénomène HIT, il commence à prendre une ampleur assez importante. C'est donc ensuite en tant que figure de proue de cette jeune garde du revival hard and heavy à la sauce 80, hein, que le combo va sortir l'album Into the Great Unknown, ça c'est en 2017. Un album qui va quand même se distinguer des autres par quelques expérimentations qui avaient pas fait l'unanimité parmi les fans, il faut d'ailleurs le souligner, même si le disque est quand même loin d'être mauvais. Alors malgré tout, avec son sixième opus qui paraît aujourd'hui, vu qu'ils se sont pris quelques réflexions sur les expérimentations, eh bien ils ont fait le choix de revenir aux fondamentaux, et d'ailleurs ils nous font savoir dès le titre, hein, puisque le disque il s'appelle Two, alors qu'en fait c'est leur sixième opus, donc on se demande, on dit pourquoi ils l'ont appelé Two. Eh bien c'est juste pour dire que ce disque, il s'imposerait finalement comme le successeur logique du premier album qui est paru il y a 12 ans, et c'est franchement réussi, hein, puisque HIT signe avec tout un bijou de hard rock mélodique dans la trempe de ce qui se faisait de meilleur dans les années 80, mais avec un son 2020. Alors, certains vont peut-être reprocher à HIT de faire une musique en quelque sorte démodée, mais beaucoup d'autres vont exulter à l'écoute de ces 11 compos qui sont taillés pour les plus grosses salles, et des compos surtout qui titillent notre nostalgie tout en étant fraîches et vivifiantes. Car oui, ce nouvel album de HIT, c'est un véritable paradoxe spatio-temporel, mais un paradoxe spatio-temporel qui fait du bien avec son énergie intense, son enthousiasme et puis sa fougue. Notons au passage que tout est le tout premier album de HIT qui a été produit intégralement par les membres du groupe. En voici un extrait avec un morceau qui s'appelle One by One. On écoute HIT sur Bac FM. This morning de la fougue, de la jeunesse, de la fraîcheur avec Hit, un extrait de leur album Two qui paraît aujourd'hui. On vient d'écouter le titre One by One. Alors c'est vrai que ça rappelle beaucoup les années 80, ça rappelle la grande époque de Bon Jovi au moment où ils faisaient encore des disques de hard rock, ce qu'on appelait du hard FM. Alors à l'époque, le hard FM c'était assez mal vu hein, par une partie de ceux qu'on appelait les hardos. On parlait encore pas de métalleux à l'époque, mais il faut avouer qu'il y avait des bonnes choses dans le hard FM et même Bon Jovi a fait pas forcément de bons albums, mais au moins de bons morceaux. Il y avait des choses, moi je les aimais pas sur tout ce qui était un peu slow parce que je trouvais que c'était un peu sirupeux, mais sur les choses plus hard rock il y avait des trucs bien. D'ailleurs ils ont sorti un single il y a un jour ou deux, Bon Jovi, je l'ai pas encore écouté donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, j'en ai pas vu que du bien donc j'irai me faire mon idée moi-même. Mais ça c'était bel et bien les jeunes gens de Hit, groupe donc qui nous vient de Suède. Toujours dans le sang frais, un tout jeune homme maintenant et son groupe, un groupe qui s'appelle Broken Love, qui ont sorti un album vendredi dernier, un album qui s'appelle tout simplement Broken Love, comme le groupe. Alors eux, ils sont originaires, enfin du moins le leader est originaire de Toronto au Canada, mais le projet il est né entre le Canada et la Californie. Il n'y a pas très longtemps, en 2018. Faut savoir que Broken Love, c'est avant tout le projet d'un jeune chanteur-guitariste-compositeur qui est extrêmement talentueux, qui est canadien, ça je l'ai déjà dit, et qui s'appelle Justin Benlolo. Alors il n'est pas tout seul au sein de Broken Love, puisque même s'il a commencé en projet solo, désormais il est accompagné de 3 autres musiciens, un guitariste, un bassiste et un chanteur, la basse quoi, pour un groupe de hard rock. D'ailleurs je dis hard rock, mais le son Broken Love c'est un bon gros rock alternatif, alors qui sent bon certes le hard rock et le grunge, et c'est normal puisque les héros musicaux de Justin Benlolo, ils ont pour nom Kiss en premier lieu, et puis après il y a Led Zeppelin, il y a Soundgarden... Entre autres, parce que le jeune musicien a déclaré dans une interview qu'il avait des influences extrêmement riches et variées, qui vont de Frank Sinatra à Slayer, en passant par Prince, Van Halen ou Portishead. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime vraiment la musique avec un grand M et qui n'a pas peur de s'ouvrir à d'autres horizons, et bien pour finalement mieux faire du rock, hein, je pense. Donc, désormais, Broken Love, c'est un groupe qui est signé chez Spinefarm Records, et ils ont sorti vendredi dernier leur premier album qui a été enregistré à Brooklyn sous la houlette du producteur Joel Hamilton, qui est connu entre autres pour son travail avec le groupe Highly Suspect, qui est un petit peu d'ailleurs dans la lignée de Broken Love. Et pour que l'énergie folle du jeune combo demeure intacte, eh bien Hamilton a enregistré l'album en prise directe, façon live, et il a bien fait parce que franchement ça envoie du steak. Au fil des 11 titres qui composent l'album, eh ben on vogue entre hard rock racé, post-grunge et même parfois stoner, comme c'est le cas d'ailleurs sur le titre qu'on va écouter, qui possède un son aussi massif qu'avait Queen of the Stone Age sur ses premiers albums. Queen of the Stone Age qui, je crois, fait également partie des influences de Justin Benlolo. Et puis, le disque possède également une couleur plus rock, plus alterno, puisque on pense tour à tour au fil des chansons à Muse, à Nirvana ou encore à 30 Seconds to Mars. Alors là, en même temps, pas étonnant hein, pour 30 Seconds to Mars, parce que Broken Love a collaboré avec Stevie Aylo, qui est un musicien multicasquette au CV bien rempli, qui fait justement partie du line-up de la formation menée par les frères Leto. Tout ça pour vous dire que ce premier opus de Broken Love, il semble sortir de nulle part, mais il en est pas moins extrêmement prometteur. C'est un bien bel avenir qui semble s'ouvrir pour le jeune Benlolo, qui il va falloir le surveiller de près celui-là, moi je vous le dis. Tout de suite, on écoute Broken Love avec leur excellent morceau Shut Down.
How long have it been? Breaks through. Gonna be hard times for me and you. How
C'était cool ça, c'était Broken Love sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Shutdown, extrait du premier album du groupe qui est paru la semaine dernière, qui s'appelle tout simplement Broken Love. Alors si vous voulez chercher, en fait Broken ça s'écrit B-R-K-N, comme c'est un petit peu la mode en ce moment de ne mettre que les consonnes, il y a beaucoup de groupes qui le font et certains le justifient par le fait que c'est plus facile pour se faire référencer sur internet. Alors là je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas ça s'écrit comme ça, B-R-K-N, et plus loin, Love, bah, L-O-V-E. Voilà pour ce tout jeune groupe mené par le jeune Justin Benlolo, qui a une petite vingtaine d'années et qui déchire et qui est un excellent musicien, qui écoute plein de choses, qui a l'esprit ouvert. Donc voilà, il en faut plein des petits jeunes comme ça, c'est eux qui vont faire continuer à vivre le rock, le hard rock et le métal. On part direction Los Angeles, maintenant on change de style radicalement puisqu'on va s'intéresser au nouvel album de Hollywood Undead qui est paru la semaine dernière, qui s'appelle New Empire Volume 1. Ça s'écrit vol, mais c'est volume 1, je dirais. Alors, eux, ils viennent de Los Angeles. Ils existent depuis 2005. Le groupe est créé sous l'impulsion du chanteur Deuce, qui a quitté le groupe en 2010, et du multi-instrumentiste J-Dog. Et actuellement, le line-up de Hollywood Undead, il est composé de 5 musiciens qui ont la particularité de tous chanter. C'est pas leur seule particularité, puisque l'autre, c'est d'utiliser des masques et ou des maquillages inspirés de films d'horreur. Alors, leur style, c'est du new metal, hein. Le son d'Hollywood Undead, il se situe entre rapcore et metal alternatif, soit dans la grande tradition du mouvement néo-metal qui a marqué le début des années 2000. Alors, si le groupe est finalement pas si connu que ça chez nous, outre-Atlantique, outre-Manche et en Australie, leur succès commercial est très très important. Par exemple, leur premier album qui s'appelait Swan Songs en 2008 a été certifié disque de platine aux États-Unis, et puis le suivant, American Tragedy, en 2011 a été certifié disque d'or. Donc voilà, c'est quand même des grosses ventes. Ces deux albums contiennent ce qu'on pourrait appeler des hits, comme par exemple Undead ou Been to Hell. Depuis, les Californiens, ils ont sorti d'autres albums, hein. Il y a eu Notes from the Underground en 2013, qui est son troisième gros succès. Puis ensuite, il y a eu Day of the Dead en 2015, et puis l'excellent Five en 2017, qui était taillé pour combler la génération qui a grandi au son de Linkin Park, de Papa Roach et autres Limp Bizkit. Five, qui contenait d'ailleurs un morceau qui s'appelle California Dreaming, dont la vidéo me fait pas mal penser au film American Nightmare, pour ceux qui l'ont vu. Mais venons-en à l'actualité de Hollywood Undead, puisque la semaine dernière ils ont sorti donc Empire Volume 1, un album pour lequel le gang de Los Angeles s'est donné pour mission de bâtir un nouvel empire sonore, rien que ça. Et c'est justement en utilisant les solides fondations de ce qu'ils ont déjà bâti ces 15 dernières années que le groupe a choisi de s'appuyer pour créer ce nouvel univers musical, peut-être un peu plus riche et un peu chouïa plus expérimental que les albums précédents. Alors par contre, jusqu'à affirmer que ce nouvel opus d'Hollywood Undead est révolutionnaire, ce serait quand même mentir, hein. Bon, pour autant, le disque est bon, hein. On apprécie ses rythmes frénétiques, ses riffs acérés, ses refrains fédérateurs, et tout ça c'est fait en plus avec beaucoup de qualité, donc bien au contraire, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien foutu, et je pense que les aficionados de la scène new metal de cette grande époque, justement des fin 90, années 2000, vont s'en donner à cœur joie. On écoute tout de suite un extrait de New Empire Volume 1 avec un titre qui s'appelle Time Bomb, c'est Hollywood Undead, tout de suite sur Bike FM.
Social pressure is the enemy. Someone else's life is becoming your identity. I walk the line one step at a time. All these motherfuckers trying to keep me in line.
This pressure I can't take anymore.
And I'll break. You crumble in my wake.
Better listen what I say. There's gotta be a way. Something's gotta change. Something's gotta change.
Now I swear.
Over and over.
what the people say.
I'm hearing evil things.
On bloody knees I pray.
My demons, they got angel wings.
It's retribution now.
The revolution sound.
Your execution now.
And it's time to burn it down.
Can you say I think it's coming? Getting close, but I keep on running.
Try to make me feel like nothing. Now my hands turn in the sun.
I feel it deep inside. These demons will not die.
I tried to run and hide, but now it's time to say goodbye.
There's gotta be a way. Something's gotta change. Something's gotta change.
And now I swear I'm
time bomb, a motherfucking time bomb.
Undead à l'instant sur Bike FM avec le titre Time Bomb, extrait de leur nouvel album New Empire Volume 1 qui est paru la semaine dernière. Voilà pour le gang de Los Angeles, pour les amateurs cette fois-ci de New Metal. Alors si vous avez trouvé ça un petit peu trop gay à votre goût, voici de quoi maintenant vous ravir, puisqu'on va aller dans un univers doom maintenant avec un groupe français qui s'appelle Angelor, qui a sorti également la semaine dernière, le 14 février, un nouvel album intitulé Rien ne devait mourir. Alors Angelor, c'est un groupe qui est né à Avignon en 2007 durant justement l'incontournable Festival d'Avignon, et groupe qui a été créé autour de deux personnes, le multi-instrumentiste et chanteur Rosarius et le clavier et chanteur Walran, qui officie également en tant que chanteur au sein du groupe de Black Death francilien Abduction. Alors depuis, le line-up, il a été complété par trois autres membres. Il y a une chanteuse qui s'appelle Lucia, un bassiste connu sous le nom de Célin et un batteur du nom de Ronnie. Ça fait un petit moment d'ailleurs que le line-up a pas bougé. Et en ce qui concerne le style, eh bien on est sur du doom metal atmosphérique que le journaliste Emmanuel Henquin a très justement qualifié de doom férique et spleenex. Spleenesque, oui c'est ça, je l'ai pas écorché, donc du spleen, je vous laisse vous référer à Baudelaire. Et ça correspond tout à fait bien justement à la musique d'Angelor. Alors eux, ils avaient commencé par sortir une compilation qui s'appelait Première Liturgie Soupir d'Aurore en 2012. On y retrouvait les premiers enregistrements du groupe. Et puis, quelques temps plus tard, il y a eu un premier album qui s'appelait Errance, qui va recevoir un accueil plutôt chaleureux de la part des médias à l'époque. Donc, fort de ses débuts plus que positifs, le combo va sortir en 2015 un nouvel album qui s'appelle La Litanie des Cendres. Un album qui confirme le très beau potentiel du groupe, qui place d'ailleurs la barre très très haut avec ce deuxième opus, et reçoit encore une fois un accueil des plus enthousiastes de la part des médias. Et donc, après presque 5 ans d'attente, voici Rien ne devait mourir, leur troisième opus, qui nous propose 6 morceaux d'une richesse et d'une émotion incroyable. C'est un album qui a été produit comme les autres avec le plus grand soin par Florent Christ, Et puis c'est aussi un album qui nous transporte avec une élégance folle dans un univers à la fois romantique, mélodique, onirique, mélancolique, pardon, j'ai dit mélodique, mais c'est mélancolique plutôt le terme à utiliser. Le doom metal du combo est relevé aussi d'une jolie touche symphonique avec ses violons, ses bois et sa harpe. Et voilà, hein, Rien ne devait mourir, c'est un album classe et singulier qui fait la différence et qui devrait pas laisser justement indifférents les amoureux de doom. En voici la preuve en musique avec cette magnifique pièce sonore intitulée Blood for Lavinia. Tout de suite, c'est Angelor sur Bac FM.
We'll be right back.
Angelor à l'instant sur Back FM dans l'émission Check Me Load. On vient d'écouter Blood for Lavinia, un extrait du nouvel album Rien ne devait mourir, paru le 14 février. Voilà pour ce groupe originaire d'Avignon, un des fleurons français de la scène doom metal atmosphérique. Allez, on va s'arrêter là pour la sélection de nouveautés. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé de quoi agrémenter vos petites playlists. Et maintenant, il est temps de passer à la rubrique finale, la rubrique Sortez Cover. Et cette semaine, on va faire le grand écart entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, puisqu'on va s'intéresser à la chanson Don't You Forget About Me de Simple Minds, dans une revisite alterno-gothique signée par le groupe Life of Agony, fameuse formation issue de la scène de Brooklyn qui a également vu naître à la même période un autre groupe appelé Type Negative. Alors, en ce qui concerne Life of Agony, le groupe, il est né en 89 sous l'impulsion entre autres du chanteur Kiss Caputo, qui depuis est devenu Mina Caputo, puisque Kiss est devenue une femme. Les deux plus grands succès du combo sont les albums Ugly, parus en 95, sur lequel on trouve d'ailleurs la reprise de Don't You Forget About Me, et puis Soul Searching Sun, qui est paru en 97. Le groupe s'est ensuite séparé en 99, et puis s'est finalement reformé en 2014, et puis son dernier album en date, donc The Sound of Scars, il est tout récent, puisqu'il est paru en octobre dernier. Concernant maintenant la chanson Don't You Forget About Me, c'est le groupe de New Wave anglais Simple Minds qui l'a interprété en premier en 1985. C'est précisément le 20 février 85 qu'est sortie la version 45 tours. Donc vous voyez, elle a 35 ans depuis hier, cette chanson. Et si Simple Minds en est l'interprète, il n'en est pas l'auteur, puisque la chanson, elle a été composée par le producteur Keith Forsey et le compositeur Steve Schiff, pour figurer sur la bande originale d'un film qui est devenu culte. Ce film, c'est Breakfast Club de John Hughes. Alors, Breakfast Club, c'est un des premiers teen movies de l'histoire du cinéma, et son impact va être tel qu'il va inspirer toute une vague de films pour ados entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2000. Le meilleur exemple étant le film Sex Academy, que je vous conseille particulièrement si vous êtes amateur d'humour potache. D'ailleurs, on peut y revenir quelques instants au film Breakfast Club. Alors, on y suit les aventures de 5 lycéens que tout oppose, mais qui vont devoir malgré tout se supporter toute une journée, parce que ils vont passer leur samedi en retenue, enfermés dans leur lycée. Le film, il va devenir tellement culte que de nombreuses séries y font régulièrement référence, de la série policière Cold Case à Sex Education, l'excellente série Netflix, en passant par Riverdale, où c'est carrément un épisode entier qui rend hommage à Breakfast Club. Donc, vous voyez, c'est un film qui a profondément marqué, alors surtout dans la culture américaine, mais en France aussi, maintenant, il commence à avoir ce statut de film culte. Alors, concernant sa bande-annonce, la chanson Don't You Forget About Me, c'est d'abord Brian Ferry qui est pressenti pour l'enregistrer, mais l'ex-chanteur de Roxy Music refuse, et on va finalement la proposer à Simple Minds, qui va d'abord décliner l'offre et puis qui va finalement l'interpréter. Et maintenant, ils doivent être bien contents, parce que la chanson, elle va devenir leur premier tube. Elle va se classer à la tête des charts de pas mal de pays à travers le monde, et ça va leur permettre d'obtenir un disque d'or au Royaume-Uni, donc c'est quand même pas mal, et puis aussi un disque de platine au Canada. Alors, outre dans Breakfast Club, on a pu entendre la chanson Don't You Forget About Me dans plusieurs autres films et séries. Alors, pour les films, j'en ai parlé, on l'a entendu par exemple dans Sex Academy que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis concernant la partie série, récemment on a pu l'entendre dans The Handmaid's Tales, qui a beaucoup de succès ces derniers temps. Voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de la chanson dans ses grandes lignes, cette chanson qui s'appelle Don't You Forget About Me de Simple Minds, qu'on va écouter tout de suite, revue et corrigée par les Américains Life of Agony, qui figure, je le disais tout à l'heure, sur l'album Ugly. Quant à moi, je vais vous donner rendez-vous maintenant après les vacances de février, parce que il y aura pas de Check Me Load les deux prochains vendredis. Donc rendez-vous au mois de mars pour de nouvelles aventures métal avec des nouveautés à foison, je vous le promets. Très bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, bon courage aux autres, et puis bon week-end à tous. Voici tout de suite Life of Agony. Salut à tous!
baby. Tell me your troubles and doubts. Give in everything inside and out. Love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow chains may pull us apart. When our life gets into your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me.
Forget about me.